et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et plus encore. Comme vous le savez maintenant, je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de tout ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de l'ennui, du vide. L'ennui, oui, mais créatif. Parce qu'en réalité, il semblerait que ça soit ça le secret de l'inspiration, d'apprendre à se retrouver face à rien. Et c'est pas facile. Je suis la première concernée. J'ai eu envie d'en parler, j'ai eu envie de creuser un petit peu, parce que je me suis demandé dans quelle mesure cet ennui pouvait être source de créativité, voire même d'auto-guérison. Alors le point de départ de ce podcast et de ce sujet, c'était en fait que quand on était enfant, et les enfants actuellement aussi, ont tendance à avoir plus de facilité à trouver de quoi s'occuper que nous. Tout simplement, trouver des choses intérieures à eux, et non pas extérieures, pour s'occuper. Quand j'étais petite, je me rappelle que je m'ennuyais souvent, j'étais encore sans petit frère, et que j'étais face à rien. Je trouvais toujours un moyen de m'occuper, j'avais pas de tablettes ou de trucs technologiques pour m'occuper. Mes parents n'étaient pas forcément dans l'idée de remplir le vide en permanence parce que je trouvais de quoi m'occuper toute seule. Donc je dessinais, je racontais des histoires à mes peluches. Enfin bon. Et ça, c'est un petit peu dissipé avec le temps, on va dire, et avec la société actuelle qui nous pousse à toujours faire, penser, remplir, checker les mails, etc. Alors que quand on était enfant, on apprenait finalement à s'occuper sans distraction permanente extérieure et on arrivait à trouver nos propres stimuli intérieurs. Et je me suis demandé aussi pourquoi c'était aussi mal vu actuellement dans la société de ne rien faire, de s'ennuyer. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'auto-culpabilité lorsqu'on se dit « bah j'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Et il passe pas un jour sans que moi-même je sois concernée par ça, c'est-à-dire ce sentiment de devoir m'occuper, de faire des choses, d'avoir des projets, d'écouter telle chose, de voir telle chose. Et ne rien faire, que ce soit sur le plan physique ou mental, c'est perturbant en fait, et c'est devenu inhabituel, alors que je sais que je savais le faire quand j'étais petite. Et je me suis demandé dans quelle mesure ça pouvait être finalement une source de créativité de s'ennuyer parce que c'était quelque chose que j'avais déjà lu dans des articles. Et j'ai voulu me poser la question et en parler avec vous et partager ce que je lirais avec vous parce que je pense que je ne suis pas la seule concernée par ça ou en tout cas, moi j'ai envie de changer et j'ai envie de ne pas me sentir enfermée et emprisonnée par ce nouveau système de penser tout le temps et de tout le temps remplir le vide. Et peut-être que ça peut en intéresser d'autres d'apprendre à déconnecter. Déjà, pour citer une chercheuse qui s'appelle Sandy Mann, elle explique très bien que le mode du cerveau par défaut, en réalité, chez les êtres humains, c'est le fait de rêvasser. C'est-à-dire que rêvasser et être en mode coucou les petits oiseaux, ce serait en fait notre mode par défaut qu'on aurait tout le temps. C'est un moment où les pensées vont et viennent sans vraiment s'arrêter et c'est des pensées qui ne seraient peut-être pas venues si on était occupé à faire quelque chose. En fait, lorsque l'on est sur ce mode par défaut normal, quand on est enfant, c'est normal d'apprendre à s'ennuyer et d'apprendre à laisser les pensées venir et à avoir des idées qui viennent et qui nous rendent créatifs. Les enfants sont hyper créatifs, on le voit. Sauf que quand on s'est déshabitué à ça et quand on a changé ce mode par défaut par le mode tout le temps de l'activité, tout le temps du stimuli extérieur, le cerveau il comprend plus et il envoie un signal pour que l'on remplisse ce vide. Alors que finalement, laisser cette porte ouverte à l'inaction, ça serait finalement avoir peut-être des réponses qui viennent. Rêvasser, ça serait renoncer au stimulus externe, réapprendre à se créer ses propres stimulus intérieurs et avoir des idées créatives. D'ailleurs, beaucoup de grands entrepreneurs célèbres, dont Steve Jobs, ont parlé de cette capacité à créer à partir de rien et à partir de l'ennui et des expériences vécues. D'ailleurs, il y a un docteur qui a dit que les personnes qui s'ennuient finissent par trouver que leurs actions sont insignifiantes et elles sont donc du coup motivées pour s'investir dans des activités qui vont avoir un sens. Donc c'est de l'ennui que naît l'interaction sociale et la créativité. Et ce monsieur, c'est Wijnand van Tilburg, pour les curieux. Et le truc, c'est que si tu t'ennuies jamais, si moi je ne m'ennuie jamais, je perds la faculté d'avoir de nouvelles idées. En fait, on étouffe notre cerveau par des actions, que ce soit par le sport, par les vidéos, le fait de checker ses mails, de regarder les réseaux sociaux, etc. Et je suis la première victime de ça, c'est bien pour ça que j'en parle. J'en parle pas du tout pour donner des leçons et dire arrêtez de vous connecter tout le temps. Enfin, je suis la première à me rendre compte que je sors du métro, je regarde mon téléphone, je regarde si j'ai un message sur WhatsApp, si quelqu'un a répondu ou quelqu'un m'a envoyé un commentaire ou si j'ai reçu un mail ou blabla. Et ça arrête pas et je me rends compte que ça impacte en plus mon sommeil, enfin j'en suis même convaincue. Et d'ailleurs, pour reciter quelqu'un encore, enfin cette chercheuse, je vais citer sa phrase en anglais parce que je pense que vous la comprendrez. Once you start daydreaming and allow your mind to really wander, you start thinking a little bit beyond the conscious, a little bit into the subconscious, which allows sorts of different connections to take place. Et en fait, c'est ça, je pense que quand on apprend à faire face au vide, on laisse la porte ouverte à des choses qui relèvent du non-conscient et de l'inconscient. Et c'est en ça que je dis que ça peut avoir un pouvoir d'auto-guérison. Parce que si on permet à des réponses de venir à des questions qu'on a et qu'on étouffe en permanence par des choses, on peut pas avoir ces réponses. Et moi, actuellement, il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et je me dis que si je peux avoir un moyen de laisser la porte ouverte à des réponses qui viennent, ben, j'aimerais vraiment me sentir libre de savoir m'ennuyer et d'en profiter sans culpabiliser. Actuellement, je sais pas forcément ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je me pose des questions comme est-ce que aujourd'hui j'ai envie de faire ça? Est-ce que les personnes que j'ai vues aujourd'hui m'ont fait du bien? Est-ce que j'ai appris des choses? Est-ce que j'ai appris des choses qui me font plaisir, qui me rendent heureuse? Est-ce que j'ai vu le temps passer très vite parce que j'étais sur des choses qui m'ont passionnée? Je pense vraiment que si on prend un homme ou une femme hyper connectée, hyper occupée, qui check ses mails tout le temps en permanence et qui ne s'arrête jamais pendant 20 ans, est-ce que cette personne, c'est pas la personne qui va faire un burn-out? Parce qu'en fait, on a changé nos modes par défaut. Et nos modes par défaut, à force d'être hyper connectés, c'est devenu une hyper connexion permanente. Et notre cerveau, il s'est habitué à ça. Et faire le contraire, ça nous paraît bizarre, en fait. Sauf que faire plusieurs choses en même temps, C'est pas possible pour le cerveau. Ou du moins, on a l'impression que c'est possible, mais il le fait pas vraiment, vraiment. Au contraire, faire plusieurs choses en même temps, c'est en fait switcher de l'une à l'autre très 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 vite, sans s'arrêter dessus, et ça épuise. C'est-à-dire que ça bouffe les ressources énergétiques, mentales, et c'est pas productif du tout, et on a l'illusion de faire plusieurs choses en même temps, mais non, pas du tout. Et je te rassure, que t'es un cerveau homme ou un cerveau femme, tu ne sauras jamais faire trois choses en même temps. Tu switches très très vite, mais chaque chose t'épuisera plus qu'autre chose que de focus sur une chose à la fois. Et d'ailleurs, la chose intéressante à voir, c'est qu'il y a 10 ans, notre cerveau avait une moyenne de switch de 3 minutes. C'est-à-dire qu'on switchait de chose à chose toutes les 3 minutes. Et cette moyenne est passée à 15 secondes aujourd'hui. C'est pour dire l'état dans lequel nos cerveaux sont stressés actuellement. Sauf que c'est un cercle vicieux parce que les personnes du coup, et moi-même, en cas de stress, je vais shifter ou switcher encore plus vite et être encore plus fatiguée. D'ailleurs, bien intéressant à observer, c'est que moins une personne dort, plus elle consulte les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en plus de ça, plus elle va être épuisée, plus elle va s'épuiser. C'est très très con. Et c'est finalement un système un peu de récompense comme on en retrouve dans les addictions. Et je vais faire un parallèle avec les drogues ou avec des comportements de type addictif, par exemple la cigarette, parce que la nicotine, on sait très bien qu'au bout de 72 heures, elle n'est plus dans le sang et que l'addiction n'est que comportementale. Ça peut être aussi une addiction du type troubles alimentaires, boulimie, anorexie, hyperactivité physique, hyperactivité mentale, ce sont finalement des addictions qui, à force d'être répétées, ça finit par créer de nouvelles liaisons neurologiques qui font que notre cerveau va en plus produire des endorphines et de la sérotonine et des hormones de bien-être et de bonheur. Et donc à chaque fois qu'on fera ça, il va sentir comme le côté récompense, comme quand tu donnes un bonbon comme cadeau, enfin c'est un système automatique de récompense. Et ton cerveau il est content, ah, c'est super, vas-y check tes mails, vas-y fatigue-moi, j'aime ça, enfin bon un peu maso le cerveau. Mais c'est un cercle vicieux en fait dont on est au départ peut-être un peu fautif, mais au final c'est un peu pas notre faute, sauf que c'est hyper culpabilisant du coup de faire le contraire de ce qu'on a envie de faire déjà, et on finit par être addict et à souffrir de cette peur de manquer de quelque chose d'important, et ça s'appelle FOMSI, Fear of Missing Something Important. Donc en plus ça a eu un terme hein, donc c'est pour dire que c'est vraiment pas anodin et que ça n'est pas, tu n'es pas la seule ou tu n'es pas le seul à souffrir de ça, on est beaucoup apparemment. Sauf que ce culte de l'ultra-productivité, de l'ultra-connexion, de l'ultra-performance tout le temps, c'est en plus hyper culpabilisant. Est-ce que tu as déjà vu sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou autre, quelqu'un qui dit, qui poste sa photo, qui dit « Aujourd'hui, je ne fais rien, je regarde le plafond. » Non. Toi-même, tu ne le dis pas et tu ne le fais peut-être pas parce que c'est hyper dur. Et pourtant, je te mets au défi de t'allonger sur ton canapé et d'attendre le temps qui passe, sans un livre, sans une musique, sans un podcast, sans tout ça. Et c'est dur. Et c'est là qu'on se dit, putain, mince, je suis dépendante à la connexion, je suis dépendante à faire, et je ne sais même plus m'ennuyer comme quand j'étais gosse. Et c'est en ça que je trouve ça malheureux. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler, parce que je pense que je ne suis pas la seule à souffrir de ça. Et personnellement, ça ne me rend pas heureuse de voir que je suis soumise à ça. Ça me fait pitié presque pour moi-même. Enfin, je me dis, mais arrête Marie, tu t'en fous, ennuie-toi et accepte-le de ne rien faire du tout. Et de t'ennuyer et de laisser juste le temps qui passe. Et j'aimerais vraiment que vous me disiez, si vous arrivez à le faire, et je pense que j'aurai pas beaucoup de retours positifs dans ce sens. Alors que paradoxalement, les enfants savaient déjà très bien faire ça tout seul. Et aujourd'hui, le truc qui est un peu inquiétant pour les enfants d'aujourd'hui et de demain, c'est qu'en plus, on les soumet à une hyperactivité de plus en plus tôt, mentale ou de connexion. Et je me dis, qu'est-ce que ça va devenir si nous déjà, alors qu'on est arrivé à s'ennuyer à peu près tout seul quand on était gosse, si on n'arrive plus à le faire nous-mêmes maintenant, qu'est-ce que ça va être pour les enfants de demain ? Et la chance qu'on a quand on est enfant, c'est qu'on peut les forcer à se déconnecter si on les laisse s'ennuyer, alors que nous, pour nous auto-forcer à nous recadrer et à nous désintoxiquer de tout ça, il faut quand même volontairement se faire du mal à se couper de tout ça. Et du coup, c'est pas évident, c'est une addiction. Mais je me suis quand même posé la question sur le côté créativité. En quoi ça nous rendrait plus créatifs et plus, j'aimerais pas dire intelligent, intelligence dans le sens intelligence intuitive, vous voyez ce que je veux dire ? Un peu plus artiste en nous et un peu plus sensible que si on fait tout le temps des choses. En quoi s'ennuyer, ça pourrait nous apporter en fait en termes d'inspiration ? Une étude récente qui a été faite, menée par cette même chercheuse Sandy Mann, sur deux groupes de personnes. Un groupe devait recopier des lignes et des lignes et des lignes de numéros téléphoniques et l'autre groupe était sur son téléphone. Et ensuite, ils ont pris ces deux groupes-là, ils leur ont donné des gobelets en plastique et leur ont demandé de trouver le plus d'utilisation. Et évidemment, vous allez ne pas être surpris vu tout ce que j'ai dit avant, mais le groupe qui avait dû s'ennuyer à recopier des lignes de téléphone d'un annuaire a trouvé beaucoup plus de choses originales à faire avec les gobelets en plastique que ceux qui n'avaient pas pu s'ennuyer et qui avaient été en permanence sur leur téléphone ou autre. Donc en fait, pousser les gens à trouver des choses plus intéressantes que l'ennui, bah, finalement, ça pousse à la créativité. Tout ce que j'ai dit là, c'est bien beau, c'est bien gentil. Marie, merci de nous dire qu'on est des hyper connectés devenus débiles. C'est un peu dommage et un peu triste. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on a envie de changer ou est-ce qu'on se satisfait de cette course à la connexion et cette course à l'activité cérébrale permanente? Ben, je vais quand même vous donner des pistes de solutions parce que moi ça m'intéresse aussi. Personnellement, j'ai pas envie de me retrouver un jour contrainte par la vie ou par autre chose qui fasse me rendre compte que je ne suis pas capable de penser par moi-même de manière intérieure, vous voyez ce que je veux dire, et de m'ouvrir à mon monde intérieur. Ça fait très psychologie de comptoir, mais je pense vraiment que c'est la seule manière d'avoir des réponses à des questions que je me pose. Bah malheureusement, je vais en décevoir plus d'un, peut-être, mais comme n'importe quelle addiction, il n'y a pas d'autre manière que la manière forte, entre guillemets, à savoir de sortir de sa zone de confort et d'aller justement dans l'inconfort, dans une situation inconfortable, pour que du coup on revienne à un mode normal pour sa santé mentale. Et du coup, au départ, c'est pas agréable du tout. Donc il faut clairement se faire violence et faire ce qu'on n'aime pas. Donc ne rien faire. S'ennuyer. Couper le téléphone plusieurs jours d'affilée s'il le faut. Couper Internet. Supprimer des applications. Ne pas regarder ses mails. Tout ce qui peut être propice à la connexion, en fait. Là, je parle de l'exemple de la connexion technologique, mais ça pourrait être très bien. Si t'arrives pas à rester posé chez toi et ne voir personne, eh ben si, fais-le. Force-toi jusqu'à ce que ça devienne facile. Alors, ça fait très donneuse de leçons parce que voilà, mais je suis la première à savoir qu'il faut que je le fasse et que j'essaye de le faire tous les jours, de trouver des trucs pour me mettre en danger, entre guillemets. Et c'est dur. Et en même temps, c'est encore plus dur de se voir dépendante de choses extérieures. Personnellement, je le vis plus comme une prison, en fait. Je pense à nouveau aux addictions. Quelqu'un qui serait addict à quelque chose, à une bouteille d'alcool, à une drogue, à un comportement pathologique, il sait que c'est pas bon pour lui. Il n'y a pas d'autre manière que de se faire violence pour l'arrêter. Et tant qu'en plus la société continue de nous dire que c'est bien de faire des choses en permanence, c'est hyper dur de se faire violence pour faire le contraire. Et pourtant, savoir que je peux perdre en créativité, que je peux perdre en intelligence émotionnelle et que je peux perdre en bonheur et en zénitude à force de trop faire comme ça et à trop fonctionner dans ce système-là, bah quand même je me dis ça vaudrait le coup de se poser la question de ce que je peux faire pour justement changer. Et pour en avoir parlé avec plusieurs personnes sur d'autres thèmes, sortir de sa zone de confort et affronter des choses qui sont difficiles, c'est le meilleur moyen pour que à terme ça devienne facile et que ça redevienne quelque chose de naturel et de sain et de normal. Petit poke à toutes mes compagnes de galère. Voilà. En fait, je pense qu'il faut considérer l'ennui comme une porte pour trouver des réponses. Je dis pas que c'est facile, je dis pas demain, vas-y, tu t'éteins tout et tu t'allonges sur ton canapé et t'attends que le temps passe. C'est super dur quand on n'est pas habitué. Mais je pense que se mettre des petits temps et des petits laps de temps où on se met au défi de couper, ça peut être un début. Ça peut être 10 minutes le matin en te réveillant, de t'asseoir en tailleur et de respirer. Alors tu peux t'aider de petits bambous ou de n'importe quelle application de méditation. Ça peut être avec le café, après le repas, juste fermer les yeux, 5 minutes pendant qu'on digère. Voilà, on souffle, on se met dans le calme. Si t'es au travail, ça peut aller t'isoler dans les toilettes. Enfin, j'ai fait ça, de me mettre dans les toilettes pour couper, pour fermer, d'aller faire un tour dehors. Alors quand je dis faire un tour dehors et d'aller marcher, tu laisses ton téléphone chez toi et tu vas pas te mettre à faire les boutiques et à regarder les magasins. Non, tu vas dans la nature, tu t'assois sur un banc, t'écoutes les oiseaux, tu marches un peu, mais t'es là, t'es pas occupé ou hyper stimulé par un truc extérieur. Alors oui, tu te balades un peu, tu t'occupes un peu, mais en tout cas, tu le permets à ton esprit de divaguer. On peut trouver chacun des petits outils pour démarrer. Le yoga, en tout cas le yin yoga, qui est pour moi la pratique la plus inconfortable. Bah, j'essaie d'en faire de temps en temps parce que je sais que ce qui est inconfortable est en fait ce dont on a le plus besoin. Le yin yoga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un yoga dont les postures sont maintenues plusieurs minutes sans bouger, sans effort, d'une manière très restaurative et très lascive, très souvent allongée, et où on a juste à attendre le temps qui passe et écouter la voix du professeur. Et c'est vrai que c'est plus simple pour moi d'avoir ce cadre du cours avec la voix du prof qui nous rappelle que c'est pas grave, c'est ok si on s'ennuie et c'est ok s'il y a des pensées qui viennent. On a juste à se refocus sur la respiration, à arrêter d'avoir le cerveau qui frétille dans tous les sens en mode sauterelle. Mais c'est super dur, c'est dur. Mais en même temps, quand on ressort, on a ce sentiment à la fois d'agacement parce que c'était pas très agréable, et en même temps, on sait qu'à terme, ça fait du bien et quand même, en même temps, ça détend. Donc c'est un peu paradoxal, et chacun peut trouver des petits tips qui feront que ça aide à lâcher, mais ça peut être du dessin pour commencer, ça peut être d'aller acheter des pots chez Truffaut et d'aller faire du rempotage dans son appartement si t'as pas la chance de vivre avec un jardin, pauvre petit parisien que nous sommes. Ça peut être câliner son chat si t'as la chance d'avoir un chat et juste rien faire d'autre. Ça peut être t'allonger sur ton canapé, ton lit, et regarder le plafond et te poser des questions et attendre que ça vienne ou pas. Et c'est tout. T'as vu? Je t'ai mis des temps de secondes. T'as dû flipper, tu t'es dit mince, allez, parti. Non, je t'ai fait t'ennuyer pendant 4 secondes. voilà, humour, mais c'était la petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous, ce petit débat, et je pense que on peut recréer des nouvelles liaisons neurologiques et entre guillemets remettre à jour notre système, rebooter notre cerveau en mode c'est ok de rien faire et je suis quelqu'un de zen et je suis quelqu'un de qui est pas obligé tout le temps d'aller faire du sport, d'aller voir des gens, d'aller boire des verres, d'aller faire au cinéma, d'aller acheter ça, d'aller acheter ci. Parce que l'achat, comme j'en avais parlé dans le podcast, le fait de se désencombrer, ça revient un peu au même, ça revient à se remplir de tout le temps, enfin par peur du vide, par peur de s'ennuyer, par peur d'avoir rien. Et on a une société qui en permanence nous balance de faire, soyez, faites ci, faites ça. Les réseaux, les mails, les machins, les infos, les newsletters, les trucs, mais ça arrête pas et ça devient flippant de confronter au vide. Mais vraiment, j'ai un exemple aussi, là, il y a quelques jours, quand je gardais les petites en babysitting, à un moment donné, elles ont commencé à s'ennuyer et du coup à se disputer, à se chamailler et à faire du bruit, à crier et machin, et j'aurais pu tout de suite intervenir et dire oh, qu'est-ce qui se passe, on arrête, toi, viens, on va dessiner, en tout cas les divertir. Je les ai laissées gueuler toutes seules pendant que je cuisinais. Je me suis dit quand elles seront calmées, ça ira. Puis en fait, à un moment donné, j'entendais plus de bruit. Je suis allée voir et puis elles étaient en train de jouer toutes seules dans leur coin, mais complètement en paix. Enfin, elles avaient fini par s'apaiser toutes seules. Et à un moment donné, la petite refusait de sortir du bain. Et avant de perdre patience et qu'elle avait déjà sorti tous ses jouets de la caisse dans la baignoire, j'ai dit ok, je la laisse patauger. Je lui ai dit, écoute, tu veux pas sortir, c'est très bien, je te laisse dans l'eau, et puis quand on aura marre, tu sortiras. Je suis partie, et je suis allée m'occuper toute seule. Je suis revenue 20 minutes plus tard, elle était toujours dans son bain, mais elle était prête à sortir, elle avait joué, elle s'était ennuyée toute seule pendant son bain, et elle était calme, et elle s'était calmée toute seule. Et j'étais, allez, on va le dire, j'étais quand même plutôt fière de moi. Et au moins, j'avais pas perdu patience, et elle s'était divertie toute seule sans avoir de quoi que ce soit, ni besoin de moi pour la divertir, ni d'autre chose. Que ça flotte, ça mousse et c'est Barbie dans l'eau, quoi. Donc voilà, c'était très bien. Un autre exemple peut-être qui vous parlera. Vous connaissez la pub Ikea, je pense pas qu'elle passe encore, mais c'est la pub Newt, où on voit un mec s'affaler dans son canapé Ikea avec un journal, comme s'il allait s'ennuyer. Et d'un coup, il tombe dans son fauteuil et tout de suite, il y a la musique... Et d'un coup, il a la créativité qui vient, il commence à assembler plein de poufs les uns autour des autres, et ça fait une voiture de course. Et là, après, il s'imagine genre en mode conducteur de course automobile. Donc voilà, ça vous rend créatif de vous ennuyer, ou en tout cas de vous poser. Et c'est tellement ça. Et j'ai trouvé que c'était assez symbolique, mais ça m'y a fait penser. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet. J'espère que ça vous aura plu. Je tenais aussi à vous remercier pour les petits messages que je reçois en privé de certaines personnes. J'ai toujours ce syndrome de l'imposteur et j'ai peur à chaque fois d'enregistrer un podcast et j'ai le sujet sur les lèvres et j'ose pas parce que chaque fois j'ai l'impression, je me dis c'est nul, ça va pas plaire et tout. Et après je me dis ok, bon bah moi ça me plaît, ça m'occupe, si ça peut plaire à certaines personnes tant mieux, si ça ne te plaît pas, c'est pas grave, je suis pas là pour plaire à tout le monde, heureusement. Et puis si t'as pu te poser des questions pendant cet épisode sur ton rapport à la connexion permanente et aux mails que tu checks H24 et au fait que tu peux pas t'empêcher d'aller faire du sport ou de tout le temps faire des trucs, d'aller des musées, des trucs machin, et que t'as peur d'être tout seul et t'as peur de t'ennuyer, de ne rien faire, si du coup tu te dis ah ben merde, c'est peut-être pas très normal de faire ça, et que j'ai pu faire en sorte que tu te poses des questions, alors je suis super contente parce que j'ai réussi. Et si jamais t'as des retours à me faire sur ça, si t'as des idées, des expériences à me raconter, n'hésite pas. dis-moi. Et puis, si ça t'a plu, si tu penses que ça peut concerner d'autres personnes et que ça peut aider certaines personnes, ou à t'abonner à ce podcast sur les applications disponibles. Et pour terminer, enfin, une dernière phrase de Ray Bradbury qui a dit « Ne pensez pas, la pensée est l'ennemi de la créativité. C'est conscient, et tout ce qui est conscient est mauvais. Vous ne pouvez pas essayer de faire des choses, vous devez simplement faire ces choses. » Sur ces entrefaits, je vous souhaite de passer une très bonne journée si c'est le matin, une très bonne soirée si c'est le soir, et surtout n'oubliez pas, soyez sage, un peu, et parlez fort, beaucoup.